Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous sommes normalement en direct pour ce petit live du vendredi soir après une semaine NBA très très chargée. Salut à tous si vous nous écoutez en podcast et salut à vous si vous êtes actuellement en direct sur YouTube ou bien sur X. Normalement, on est aussi en direct sur X pour parler de cette folle semaine NBA. J'ai avec moi deux hommes qui ont bien voulu veiller un peu plus tard ce vendredi soir après une semaine très chargée pour parler NBA. Je vais commencer avec toi, Amine. Beaucoup d'émotions cette semaine, Amine, j'imagine.
Beaucoup d'émotions, pas mal de plaisir, que ce soit sur les perfs d'un certain Joel Embiid ou sur la signature d'un head coach que je connais bien dans une équipe rivale.
Que tu connais trop bien, peut-être, même le coach en l'occurrence. Et on a aussi avec nous Madiane, qui a peut-être, je dirais, les couteaux aiguisés. Comment ça va, Madiane ?
Eh bien, ça va. En vrai, je me suis beaucoup amusé avec les annonces de la semaine. Ça m'a inspiré beaucoup de blagues et beaucoup d'amusement. Donc, j'ai passé une bonne semaine NBA. Franchement, très agréable.
Très, très riche cette semaine et très agréable. On dit bonjour à Logan WTR qui est avec nous. C'est peut-être le moment où je vais devoir mettre les lunettes pour éviter d'écorcher vos noms. En tout cas, on va parler de quoi ce soir? On va d'abord faire une longue page sur la situation du côté des Bucks, changement de coach. Et il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire à la fois sur l'éviction d'Adrian Griffin et sur le choix de Doc Rivers. Amine a déjà préparé les couteaux pour ce sujet-là, en l'occurrence. On va aussi parler du trade qui a eu lieu entre les Hornets et le Heat avec l'arrivée de Terry Rozier du côté de la Floride. Et on va aussi un peu parler des perfs XXL. On va faire une petite page sur Pascal Siakam, mais on va pas être trop long parce qu'on vous avoue qu'on est en train de préparer un podcast dans les prochaines semaines, un gros point sur la situation des Toronto Raptors. On salue d'ailleurs notre gabarin national. Donc, on va prendre notre temps, on va pas encore trop parler de ce trade ou plutôt en parler en priorité du côté avec une vision plutôt Pacers. Les présentations sont faites. Si vous nous écoutez en direct, n'hésitez pas à participer, que ça soit dans les commentaires YouTube ou dans les commentaires YouTube, en fait, dans le chat en direct. On voit que le mec est pas très expérimenté pour ce qui est du live. Et si vous nous écoutez en replay, en podcast, en début de semaine, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée. Et si on commençait, les gars, si on commençait en parlant de l'éviction donc d'Adrian Griffin et de l'embauche de Doc Rivers. Amine a pris une longue respiration. On va déjà commencer par... Parce que je pense vraiment, les gars, que c'est une situation qu'il faut découper. Hein. D'un côté, il y a l'éviction et de l'autre, il y a le fait d'aller chercher Doc Rivers, qui est en soi une autre idée. commençons, Amine. Non, je te laisserai commencer peut-être sur aller chercher Doc Rivers. Madiane, je vais commencer par toi. Pourquoi ce changement du côté des Bucks? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a amené ce changement?
Multifactoriel, parce que finalement, quand on regarde les faits, les chiffres, globalement, l'équipe se portait pas si mal. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait fait un petit podcast ensemble en début de saison pour dire, voilà, ne vous inquiétez pas. Ça expérimente, oui, c'est un peu branlant en ce moment, mais tout va bien. Ils sont finalement à 31 victoires, 13 défaites, deuxième, derrière quand même des intouchables Celtics. Donc, globalement, intouchables. Oui, enfin, très très fort Celtics. Donc, globalement, on peut se dire qu'il n'y avait pas péril dans la demeure, mais il y a plusieurs facteurs qui font qu'ils ont fini par patience. Déjà, un, ça bougeait tout le temps. Les victoires, quand même, s'obtenaient pas tant par un résultat collectif satisfaisant sur le terrain, mais plutôt par la force de l'effectif, la force brute de l'effectif. On avait moins l'impression d'avoir un collectif huilé qui pouvait gagner match après match. Et comme leur roster s'est quand même beaucoup ajusté, et que au niveau défensif, notamment, les ajustements n'ont pas l'air d'avoir convaincu le front office des Bucks, mais au-delà de ne pas avoir convaincu le front office des Bucks, n'ont pas convaincu les joueurs eux-mêmes, et ça, c'est vraiment le souci. Il a fini par perdre son vestiaire, même si, visiblement, dans la décision, le vestiaire ne serait pas intervenu d'après le front office, mais après ça, on ne peut pas savoir ce qui s'est réellement passé. Voilà, on peut douter, comme tu le fais, Ben, mais théoriquement, d'après les déclarations, si personne n'est un menteur, c'est le cas. Et oui, les ajustements défensifs, ils ne sont pas convaincus, notamment, de ce que j'ai compris, ce qui a beaucoup cristallisé les critiques, c'est des schémas un peu difficiles à exécuter, pas avec le matériel qu'ils ont, l'utilisation de Brook Lopez. On a eu aussi une gueulante de Giannis Antetokounmpo qui, en sortie de match, est quand même allé réécrire des schémas défensifs sur le tableau du coach. Et ça, quand même, on peut se dire que c'est... Ben, que oui, clairement, tu as perdu ton vestiaire si tu te retrouves avec ton joueur star qui s'amuse à réécrire des schémas défensifs plus simples sur le tableau pour dire « Ah ben regardez, en fait, on peut faire plus simple et si on arrêtait de se compliquer la vie. » Et j'en reviens toujours à ce que j'ai vu dans l'article ESPN et que j'avais oublié comme déclaration du coach, maintenant de virer des Bucks, qui disait « Parfois, en tant que coach, on essaye d'être trop intelligent. » Bah, je pense que c'est ça qui a fini par lui coûter sa tête. C'est à force d'essayer des trucs un peu trop compliqués, un peu trop durs à exécuter, qui ne portaient pas leurs fruits, qui n'étaient pas forcément compris de la part des joueurs, bah ouais, tu finis par prendre la porte parce que, mine de rien, avec le trade de cet été, les mouvements de cet été, cette équipe, elle est pour gagner et il n'y a pas le temps de s'amuser à essayer d'être trop malin.
On dit bonjour à toutes les personnes qui nous ont laissé des commentaires et je vais aller vers toi, Amine. Je trouve que cette déclaration, elle est très, très marrante quand tu la mets en miroir avec le fait qu'il y avait une frustration du côté des joueurs des Bucks qui, d'après les articles, notamment de The Athletic et d'Eric Nam, qui a fait un très bon boulot, le journaliste qui suit les Bucks pour The Athletic, sur le manque, en tout cas, l'incapacité des joueurs des Bucks à comprendre ce qu'on voulait d'eux. Et je pense qu'il y a peut-être un défaut de pédagogie. Je ne sais pas si c'est souvent un travers dans lequel tombent les jeunes coachs. Amine, je vais aller vers toi. Comment expliquer cette éviction? Madiane a déjà fait une grande liste. Hein. Les schémas qui n'ont pas été bien exécutés, les changements qui ont été majeurs par rapport à l'époque Budenholzer. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter?
Bon, oui, effectivement, Madiane a dit beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Moi, je trouve qu'il y a, si je devais ajouter un truc qui frappait quand même aux yeux, je trouve... c'est le manque d'alchimie finalement qu'on attendait vraiment entre Lillard et Giannis. Il n'a pas réussi à trouver comment faire de cette relation une bonne relation, alors que ça semblait presque évident quand il y a eu le trade de Lillard. C'est la première chose à laquelle on a pensé, c'est le duo, que ce soit sur pick and roll, que ce soit c'est trop fort, en fait ça devait être trop fort. Et pour l'instant, ces Bucks, comme l'a dit Madiane, ces Bucks, ils s'en sortent plutôt bien, mais ils s'en sortent plutôt bien parce que les individualités font que ce n'est pas si difficile que ça de s'en sortir. Donc déjà, il y a un problème, donc pas seulement défensif, mais offensif. Mais effectivement, la défense a été un énorme problème. Même si je pense que c'est un peu facile de mettre ça sur le dos de Griffin, les schémas ont changé, effectivement, mais... quand tu as un premier rideau qui est composé de Lillard et Malik Beasley, bon, ça me paraît compliqué quand même d'avoir une défense aussi solide qu'à une époque où tu pouvais compter sur Jrue Holiday dans ton premier rideau et, ou Grayson Allen à côté de lui. Donc tout ça, je pense, c'est un peu compliqué. Moi, je n'ai pas du tout été convaincu par Adrian Griffin. Comme tu l'as dit, Ben, on attend parfois un peu trop de ses anciens assistants qui arrivent dès leur première saison avec un gros roster, ou même pas forcément avec un gros roster, mais tous les bons assistants ne font pas de bons head coach. Il y a des contre-exemples, effectivement. On a vu le succès de Nick Nurse il y a quelques années, de Ime Udoka il n'y a pas si longtemps que ça. On voit que là, Ty Lue est exactement. Mais pour tous ceux-là dont on se souvient, on oublie les Nate Bjorgen, les Adrian Griffin, les j'ai oublié son nom, mais le coach des Rockets de l'année dernière,
Silas Junior.
Silas, merci. Stephen Silas Junior.
Après lui, il avait Silas dans le nom, ça annonçait un truc. Hein.
Le doute s'installe quand tu vois Silas.
On a tendance à en oublier plus à Wessenseld, récemment viré des Wessenseld Junior, lui aussi, récemment viré des Wizards. Donc la hype des assistants, ce qui est ressorti des inside un peu, c'est qu'Yanis, par exemple, a mis son veto pour que les Bucks aillent chercher Nick Nurse. Aujourd'hui, je pense que ça aurait peut-être été différent quand on voit ce que Nick Nurse a réussi à faire du côté de Philly si Yanis n'avait pas imposé Griffin, puis peut-être un peu dégagé Griffin.
Par rapport à ça, avant de faire une longue tirade, on va dire que c'est parce que c'est Giannis, mais alors à chaque fois qu'un joueur montre son pouvoir ou l'étendue de son pouvoir dans une franchise, à chaque fois on entend les cris « Ah là là, les joueurs ont trop de pouvoir ». Alors c'est un fait, on peut s'en plaindre, hein. On peut faire comme on veut, mais Giannis a plus de pouvoir que n'importe quel coach qui est aux Bucks. Comme si demain, Nikola Jokic demande la tête de Mike Malone, Mike Malone est viré sur le champ. Alors, on peut en vouloir aux franchises, à l'écosystème NBA d'avoir instauré ça, mais les franchise players ont un pouvoir supérieur à celui des coachs, très souvent, parce que chez les Bucks, Giannis, c'est un joueur générationnel, c'est soit le meilleur, soit le deuxième meilleur joueur de l'histoire de la franchise, et ils n'auront pas de joueur comme ça peut-être avant 20 ou 30 ans. On leur souhaite avant. Donc, il a un pouvoir immense. Par rapport à Adrian Griffin, pour moi, je suis obligé de faire une comparaison avec David Blatt, les gars, parce que pour moi, c'est la même situation dans le sens où, première chose, c'est des coachs qui ont été amenés à coacher une équipe différente de celle pour laquelle ils ont signé. Souvenez-vous du moment où Adrian Griffin signe. On avait fait ensemble, je crois, Amine, d'ailleurs, un post-mortem. On était revenu sur la fin de saison des Bucks et on était dans une situation où Giannis, on commençait à parler de sa fin de contrat. Il y avait la free agency de Brook Lopez et il y avait la question de Chris Middleton. Et on commençait à se dire qu'on était sur une équipe qui entamait peut-être sa dernière course. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Chris Middleton a prolongé, Brook Lopez est passé à un cheveu d'aller du côté des Rockets et il reprolonge. Et surtout, Damien Lillard arrive. Donc en fait, entre ce que devait coacher Adrian Griffin et ce qu'il a dû coacher, il y a une vraie différence. Et je pense que ça, c'est son péché principal, c'est son incapacité à s'adapter. Parce que je pense qu'il avait dans l'idée peut-être d'instaurer des choses qui, sur le long terme, dans 2-3 ans, allaient porter leurs fruits, c'est-à-dire être peut-être plus flexible en défense, en attaque, pas forcer trop sur le pick and roll avec Giannis et Damien Lillard. Le problème, c'est qu'il n'a plus le temps, en fait. Quand tu as Damien Lillard qui arrive, tu joues le titre, tu dois être champion cette année, ou en tout cas, c'est l'objectif. Et je pense qu'il y a peut-être eu ce péché-là du côté d'Adrian Griffin, notamment sur, comme tu l'as dit, Madiane, s'évertuer à jouer de la défense, à offrir d'autres choses que le drop de Mike Budenholzer, alors qu'on a un effectif qui a été construit là-dessus, et qu'en plus, tu as des défenseurs sur la ligne arrière qui sont moins bons. Donc en réalité, il n'y avait aucune raison d'essayer cette défense en switch qui ensuite pose des problèmes sur les rebonds, etc., pour en revenir là-dessus. Donc, beaucoup, beaucoup de choses qui amènent à au fait qu'Adrian Griffin saute. Mais est-ce que les gars, on est surpris? On va revenir sur le choix du remplaçant après. Mais est-ce que, quand vous avez vu l'information, est-ce que ça vous a vraiment surpris, les gars? Parce que commencez à avoir des bruits persistants depuis quelques semaines, quand même.
Non, c'est pas si surprenant. J'avoue que dans les annonces, dans l'annonce, finalement, ce qui a plus choqué et fait réagir, c'est plutôt le favori à la succession que le fait que les Bucks se débarrassent de leur coach. Parce que autant quand on avait enregistré, on disait « Attendez, soyons patients » parce que forcément, il essayait beaucoup de choses. Donc on s'est dit forcément, il faut qu'il essaye, il faut qu'il l'expérimente et effectivement, peut-être que ça peut rentrer. Quand tu vois quand même très très vite, quand tu vois que ça se prolonge, que la solution n'est pas trouvée, que les joueurs sont pas à l'aise, c'est pas surprenant que ce soit l'une des premières têtes à sauter. J'en aurais peut-être vu une ou deux avant. Bref, finalement, dont une café effectivement pris, mais pas surprenant du tout quand la sauce prend pas.
On a d'ailleurs un petit commentaire de Logan qui nous parle du contre-exemple de Will Hardy qui a un bon contre-exemple. En soi, c'est, je ne vais pas dire que c'est du 50-50, ça serait être un peu trop réducteur, mais les coachs C'est ce que je dis souvent, moi, quand on se plaint du recyclage permanent de certains coachs, c'est que, en réalité, quand un assistant se plante, c'est catastrophique pour une franchise, très souvent. Amine, est-ce que tu es plutôt d'accord avec Madiane? Est-ce qu'il y avait ce sentiment que ça allait arriver, indéniablement?
Oui, oui, clairement. Moi, ce qui, je pense, nous choquait le plus, c'est que on parlait assez peu des Bucks parce qu'on en attendait beaucoup plus que ce qu'on a vu. Et qu'on était presque depuis le début de saison en attendant de voir. Et ça commençait à faire long, en fait, pour un attendant de voir. Et en plus, s'il avait perdu son vestiaire, là, ça commençait à être compliqué. Pour revenir justement sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au pouvoir des franchise players, moi, ça ne me dérange pas que si ça se passe mal avec un coach, que le franchise player justement prenne la responsabilité de vouloir s'en séparer. Ce qui me dérange un peu plus, c'est dans le choix du coach à la base, parce que c'est pas forcément leur job et que en fait c'est une marque d'intelligence de la part d'un joueur de prendre du recul aussi là-dessus. Tu vois, quand je pense justement à certains joueurs qui mettent des veto pour l'arrivée de certains coachs, c'est plus sur l'arrivée du coach en question que ça me dérange, parce que les joueurs ne sont pas forcément les plus avisés pour savoir quel coach les aidera le mieux à faire le mieux. Et j'ai l'impression que, peut-être que c'est une transition, mais on a encore l'exemple justement avec à nouveau ce choix des Bucks qui vient apparemment aussi du vestiaire.
La transition est trop belle. Je la saisis balle en main. Et il faut savoir, j'ai découvert ça en lisant l'article de The Athletic, que du coup, et là, on voit bien que la NBA, c'est quand même Dallas. C'est une référence de vieux, ça. Willardy. Adrian Griffin et Doc Rivers étaient en discussion. C'est ce qu'a révélé The Athletic et Shams Charania. Et qu'en gros, ils discutaient et que Doc Rivers avait un rôle de consultant, en tout cas d'aide, auprès d'Adrian Griffin depuis un peu plus d'un mois. En gros, depuis la défaite au play-in, il y avait eu des discussions. Et en gros, il y avait eu notamment un meeting d'organisé, je crois, en marge justement du play-in, justement, avant leur voyage à Las Vegas. Donc, c'est un peu plus tôt, je me trompe un peu dans l'espace-temps. En tout cas, Doc Rivers, ce que c'est pas... Je vous annonce, je vais un peu défendre Doc Rivers, qui est quand même lunaire. Déjà, il faut savoir qu'il y a donc des connexions. C'est-à-dire que Rivers, voilà... Dans l'arrière-scène, ça fait pas mal de temps qu'il discute avec Griffin, etc. Il a été mis en avant. Je suis obligé de te lancer, toi, Amine, le choix de Doc Rivers. Tu as fréquenté Doc Rivers.
Il l'a adoré.
Il a qui ? N'est-ce pas, Amine ?
Non, mais je vais revenir en arrière. Et je pense que pour ceux qui veulent fouiller, je pense que j'ai tweeté quand Doc Rivers est arrivé à Philly. Et à l'époque, il y avait un peu les rumeurs Doc Rivers et Tyronn Lue pour remplacer Brett Brown à l'époque, et que je m'étais satisfait qu'on prenne Doc Rivers plutôt que Tyronn Lue à l'époque. C'est dire que quand tu as l'expérience Doc Rivers, ensuite tu changes beaucoup d'avis. Je vais pas m'acharner sur Rivers qui est parti avec ses qualités et ses défauts, parce que des qualités, il en a. Je ne vais pas remettre ça en cause. Néanmoins, je pense que l'image de Rivers, sa principale image, c'est l'image d'un manager fédérateur, et moi, je n'y crois pas, ça, par contre. Je veux bien que ce soit un bon coach de régulière qui fasse les choses simples, qui permettent de faire de bons résultats avec de bons rosters. Effectivement, à tirer le maximum en saison régulière, parfois même de roster limité. Ça a été le cas aux Clippers avant que les superstars arrivent. Néanmoins, de l'expérience que j'ai pu voir à Philly et même de ce qu'on a pu voir précédemment, il arrive à fédérer autour de lui pendant une courte période et puis ensuite, c'est la terre brûlée. On se rappellera de Ben Simmons au bûcher. On se rappelle également de conflits avec James Harden une fois que la saison dernière était terminée. On se rappelle des problèmes à Los Angeles lors de sa dernière saison avec Kawhi qui passait 90% du temps à San Diego et qui avait donc une liberté totale qui a beaucoup gêné le reste de l'équipe. Donc au final, Doc Rivers sert les intérêts généralement de son franchise player, parce que si vous demandez par exemple à Joel Embiid ce qu'il pense de Doc Rivers, il vous dira énormément de bien. Je n'ai pas peur de le dire, il lui a vraiment permis d'obtenir son MVP, ce qu'il voulait à tout prix, mais je ne sais pas si c'était une bonne chose pour la franchise, finalement, c'était une bonne chose pour Joel Embiid. Donc tout ça, c'est des éléments qui me font penser que Doc Rivers n'est pas le manager fédérateur. Je pense que sur une courte période, là, ça peut bien se passer. Et puis, si les Bucks, ça se passe mal en playoff, ça se passera mal avec Doc Rivers, comme ça s'est mal passé avec tous ces rosters quasiment, lorsque ça se passe mal. Et comme ça s'est vraiment bien passé qu'une seule fois, il y a maintenant 16 ans, pardon. C'est bien ça.
Ah ouais, ouais. Ça date, 2008, ouais. Ouais, ça date.
Mmh. Eh bien, je trouve que Doc Rivers, qui a l'air néanmoins d'être quelqu'un de sympathique, puisqu'il est apprécié par beaucoup de gens qui le côtoient régulièrement, d'un bon gars, comme on dit, et qui a l'air aussi d'être un drogué à son métier et qui ne peut pas se passer de ne pas être sur un banc. Et ça, il faut lui reconnaître néanmoins qu'il aime son métier et qu'il a envie de pratiquer son métier. Je pense que c'est une mauvaise idée à Milwaukee de prendre Doc Rivers. Je ne crois pas. Comme j'ai passé les dernières années à répéter que les Sixers n'iraient pas au-delà des demi-finales de conf parce que Doc Rivers, je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui pour les Bucks, même s'ils ont Damian Lillard, même s'ils ont Giannis Antetokounmpo.
Alors que je me fais trash-talker par un certain Constant Lubin dans les commentaires qui me dit « Je reconnais le maillot ». Oui, oui, on reconnaît le maillot. Les Ravens de Baltimore, le podcast sortira sûrement après la finale de conf, donc j'aurai sûrement… Non, c'est notre année. Ça va être clippé. Amine a dit beaucoup de choses. Madiane, je vais aller vers toi. Je vais être l'avocat de la défense. Il faut bien quelqu'un qui s'y attelle. Hein. Il faut bien quelqu'un qui essaye de défendre l'embauche.
Non,
de
mais c'est bien de ne pas être d'accord des fois. Mais,
des fois, ouais, on nous reproche. Donc, je ne suis pas convaincu, hein, mais vas-y, Madiane.
Non, mais bah, déjà, j'abonde évidemment ce que dit Amine, vu qu'on est tout à fait en accord sur le Carrivers. Moi, il y a un point qui me... En fait, le point qui me turlupinait, qui m'a fait turlupiner, je pense que vous l'avez vu dans la conversation, que ça m'a fortement... Lupiner ce jour-là, c'est que le problème de Rivers, c'est souvent effectivement en playoff, que notamment ce qu'on lui reproche, c'est l'adaptabilité aux situations, la gestion des rotations, de ne pas laisser son équipe couler en plein match quand ça se passe mal. Et les casseroles qu'il a sont quand même extrêmement nombreuses sur le sujet, et que tu te sépares de Budenholzer pour des raisons quand même très approchantes de ces sujets d'adaptation, faire mieux en playoff, attention quand on est en difficulté, comment on gère, comment on rebondit. Budenholzer a fini par y arriver, mais c'est vrai que à chaque campagne ratée, je me souviens d'une élimination face aux Raptors, qui lui a été grandement reproché à notre ami Budenholzer, à Giannis aussi, mais il en avait pris pour son grade, je me souviens. Rivers, j'ai l'impression que c'est ça en moins bien. Et ouais. ça me dérange un peu le tour de coach pour finir avec Rivers au bout du compte, parce que ça rend un peu ce que tu as fait un peu bancal. Et au-delà de ça, sur la gestion des superstars, il a quand même à la fois Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo. Et dans l'utilisation dans le jeu, ça me dérange parce qu'il a souvent eu des combos. On se souvient les Clippers avec Lob City, Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan ou le duo des Sixers. Ça s'est vraiment pas bien fini à la fois personnellement avec ces joueurs, mais aussi dans leur utilisation et dans leur optimisation dans le jeu, où on n'avait pas l'impression qu'il s'appuyait sur les superstars pour l'aider à rendre meilleur, mais qu'il disait juste gère le truc et puis faisons simple. Mais en fait, c'est pas comme ça que tu coaches une superstar. Et il faut quand même un minimum de choses à mettre en place autour d'eux pour optimiser leur potentiel. Et c'est aussi un des points qui me gêne dans la nomination de Rivers, c'est qu'il a pas brillé pour sa gestion des superstars. Et là, il en a deux grosses. Enfin, Lillard et Giannis. C'est pas n'importe qui dans la NBA. Et ça me dérange en fait comme nomination parce que je vois pas le fit. Je vois l'idée, mais ça, si tu as réussi, je serais très très fortement étonné. J'ai vraiment l'impression que ça fera un travail minimal, ça va réparer le vestiaire, ça va aider à engager les joueurs au moins sur un court terme. Mais quand il y aura des cailloux en play-off, le train va très vite dérailler à mon sens.
Alors, je dois répondre à deux salves d'attaques qui sont légitimes, clairement. Alors, première chose, moi, pour revenir, je pense que Doc Rivers est responsable de beaucoup de catastrophes en play-off, en termes de gestion, etc. Après, en termes de gestion des hommes, on en avait déjà discuté, Amine. Je trouve que, par exemple, le cas Kawhi et les passes droits, c'est plus une question de front office qu'une question de Doc Rivers. Je pense qu'il y a aussi de ça, parce que je pense que ça se joue un peu plus haut. Mais pour revenir sur certains de vos arguments, d'abord, c'est pour ça que moi, j'ai tenu à rappeler dès le début de l'épisode ce qui s'est passé entre l'embauche de Griffin, d'Adrian Griffin, et où on est actuellement. C'est qu'en fait, du coup, le fait qu'on recrute quelqu'un actuellement qui a certains des péchés de Bud sans avoir les qualités, c'est parce qu'en fait, la situation n'est pas la même. Je suis intimement persuadé que si on dit aux Bucks, au lendemain de la série contre le Heat l'année dernière, où en fait, Damien Lillard va arriver dans l'été, pour Mike Budenholzer, qui n'a jamais eu un gros porteur de balle, c'est un truc qui est fou, mais c'est un mec qui a beaucoup coaché NBA, mais il n'a jamais eu un gros porteur de balle. Je ne suis pas sûr qu'ils font le même choix, parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu quand même beaucoup d'événements qui n'étaient pas trop prévisibles du côté des Bucks. Donc ça, pour moi, c'est un peu un faux procès. C'est parce que là, ils sont dans des solutions d'urgence. Ensuite, pour moi, il y a la question de l'alternative, les gars. C'est-à-dire, c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment prendre la question, faut découper la question. Une fois que tu as pris la décision de virer ton coach, quelles sont les alternatives? Pour moi, ils sont vaccinés envers les assistants, ils vont pas promouvoir un assistant, pour moi. Et ensuite, si tu ne promeus pas un assistant, c'est qui l'alternative? C'est Atkinson. C'est le seul nom qui visiblement est circulé. Et dernière chose, alors, effectivement, il a beaucoup de... Alors là, ça va être très, 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 très alambiqué, mais la faculté qu'a Doc Rivers à parfois se simplifier la tâche dans les schémas offensifs, je me demande à quel point c'est pas un avantage à très, très court terme. Parce qu'un des gros problèmes des Bucks, c'est que le pick and roll qu'ils utilisaient avec beaucoup de parcimonie, le pick and roll n'a pas marché si vite que prévu. Et un des gros problèmes, c'est que, alors sans rentrer dans les détails, il y a encore un très bon article de The Athletic là-dessus, c'est qu'en gros, Giannis a expliqué que un pick and roll avec Damien Lillard, comme les joueurs passent au-dessus de l'écran, il a la balle beaucoup plus vite. Et en fait, en termes de lecture, il y a des choses qui se passent qu'il ne voyait pas avant. C'est-à-dire que Chris Middleton, pendant 2-3 dribbles, lui fait la passe. Les lectures ne sont pas les mêmes qu'avec Damien Lillard. Je fais beaucoup confiance à l'ami Doc pour mettre 15 000 pick and roll avec d'un côté Lillard, d'un côté Giannis, c'est-à-dire d'en abuser. Alors, ça sera peut-être pas bon parce que le jour où les équipes trouveront une autre solution, où les équipes en vont encore perfectionner leur solution, il y aura plus d'alternative, comme c'est souvent le cas avec les équipes de Doc qui sont quasiment unidimensionnelles. Mais je trouve qu'ils ont besoin peut-être de revenir aux fondamentaux. C'est une équipe qui a tenté trop de choses dernièrement, donc oui. Est-ce que je suis séduit par Doc Rivers? Non, les gars, mais c'est pas si non, c'est pas bon, mais je veux dire que pour moi, je les vois quand même en finale de conf, par exemple.
Je me pose une question, mais j'ai un peu la réponse. Il veut plus du tout coacher Mike D'Antoni, parce que moi, par exemple, c'est un pari que j'aurais préféré à celui de Doc Rivers, quitte à faire des nouvelles recettes dans des vieux pots. Ça m'aurait fait un peu plus frétiller, on va dire. Ça aurait pas arrangé les problèmes défensifs, mais peut-être qu'on aurait vu quelque chose au niveau de l'offense. Après, oui, Ben, je trouve que tu as bien résumé ce qui va se passer. On va voir du pick and roll à foison et de l'isolation à foison. De toute manière, c'est le jeu de Doc Rivers. Tu ne vois que ça et c'est le problème. C'est-à-dire que sa qualité, c'est que ça va être bien fait. Tu as raison. Mais qu'en playoff, s'il n'y a que ça, ça devient difficile au bout d'un moment. Et tu peux avoir les meilleurs joueurs sur le pick and roll que tu puisses avoir. Effectivement, c'est bien avec Lillard et Giannis, mais c'était bien avec Harden et Embiid aussi. Franchement, ça fonctionnait plutôt bien. Mais si tu n'as pas d'alternative, moi, j'ai un peu peur de ce qui va se passer. Madian a aussi parlé d'une chose qui est très juste. On n'est pas sur les mêmes problèmes d'adaptation que ceux qu'avait Budenholzer. Budenholzer, on était sur quelque chose de notamment, moi, ce qui me choquait le plus avec Budenholzer, c'était la limitation des minutes de ses superstars, qui était très étrange. Il les faisait jouer le même nombre de minutes en play-off qu'en saison régulière. Doc Rivers, on est sur encore un truc encore plus à l'ancienne, avec des rotations binaires. Encore l'année dernière, on a pu voir des 5 entièrement de banc en play-off sous Doc Rivers. C'est quand même extraordinaire. Je suis désolé, mais...
J'avoue que Ben, quand même, le casier judiciaire, là, il est quand même lourd. J'avais oublié ça. Merci, Amine, pour le rappel.
Eh ben, moi, je contre-attaque avec Logan qui nous dit « Et l'ajout de Dave Yorger, on en pense quoi, un ajout intéressant ?»
Je l'aurais préféré en numéro 1, même si apparemment, lui, il a plus de mal avec les joueurs.
Ouais, c'est ça. C'est que Dave Yorger avec les joueurs, ouais,
c'est compliqué. Ouais. C'est vrai.
C'est compliqué. Par contre, tactiquement, c'est intéressant. Moi, par exemple, je
il était déjà au Sixers, hein. Je le dis quand même.
C'est ça. Il était déjà là, c'est ce que j'allais dire.
Ouais,
le truc du coordinateur offensif. Le truc, c'est souvent fantasmé par les, je trouve, un peu beaucoup en NBA, le truc du coordinateur défensif-offensif, un peu comme au football américain, notamment pour une équipe qui a les deux meilleurs à chaque côté. Non, c'est pas vrai. Mais c'est un peu d'influence parce qu'en fait, par exemple, les problèmes de Doc au niveau des rotations, je pense qu'il a la pleine puissance, il a les mains libres au niveau des rotations, par exemple, je pense. Mais il y a Loïc, oui, je sais que je joue un combat perdu d'avance, Loïc qui nous dit « J'aime pas rejoindre le consensus, d'habitude, je tombe pas dans le piège, mais avec Doc Rivers désolé, je ne peux pas m'empêcher de trouver que ses limites sont flagrantes. » Elles le sont, mais j'allais résumer ça comme ça, les gars. Pour moi, c'est un pari sur le fait que le front office... Alors, encore une fois, il faut remettre ça dans un contexte où je pense qu'il y a peu d'alternatives, etc. C'est aussi le front office qui pense que Lillard, Giannis, mis en avant, ils peuvent tout faire, en fait. Je pense que c'est l'idée qu'en gros, si tu sais mettre en avant le duo, en gros, il ne t'arrive rien avant les finales de NBA, normalement. Ce qui n'est pas un calcul que je ferais, mais en gros, c'est leur idée que tu joues bien le pick and roll Lillard, en gros, tu n'as pas besoin d'être un génie tactique pour faire jouer cette équipe, en gros. Je pense que c'est peut-être une partie de leur calcul.
Ils ont vu jouer les Celtics en ce moment ou pas? Moi, je ne te cache pas que les Celtics, ils font quand même... ils ont une tronche qui fait peur. Hein. Et peur dans le très bon sens pour les Celtics. Hein. Tu n'as pas envie de les prendre.
J'ajouterais aussi que les Sixers coachés, ça sera pas face à des Bucks limite comme ce début de saison coaché par Doc Rivers. Moi, je donne pour le coup, je mets de côté mon pessimisme habituel en disant que ça sera pas gagné d'avance. Parce que Nick Nurse, lui, il aura du répondant. Juste, je rebondis sur une chose que tu as dit parce que j'ai parlé de Mike D'Antoni, c'était un peu sur le ton de la blague parce qu'il y a bien une chose sur laquelle tu as raison, c'est t'as parlé de manque d'alternative, Ben. En fait, il n'y avait pas d'alternative parce qu'il cherchait un coach. Il cherchait un coach avec de l'expérience, vétéran, tout ça. Il n'y en avait pas du tout, en fait. C'était Doc Rivers ou un jeune coach. Et du coup, en fait, c'est un choix, comme tu dis tout à l'heure, pour te rejoindre, Ben, c'est un choix par défaut. Tu n'avais pas d'autre choix possible, presque.
Ouais, parce que là, je vais vous porter un piège, les gars. Vous préférez entamer les playoffs avec Adrian Griffin ou avec Doc Rivers?
Ok.
Avec Adrian Griffin.
Oh non.
Je sais ce que ça donne avec Doc Rivers. Je suis désolé.
Je comprends. Mais en fait, pour moi, le fait que la question se pose peut légitimer le fait que, avec Doc, tu n'auras peut-être pas les mêmes problèmes en interne qu'il y avait autour de la pédagogie. Moi, je suis vraiment, les gars, ça m'a choqué plus d'une fois dans les déclats. Les Bucks, cette année, ils ont dit, Giannis ou d'autres, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Il y a une grande différence. Les joueurs, parfois, NBA disent, on a mal exécuté. Quand tu as mal exécuté, c'est que tu as compris, mais que tu n'as pas réussi à exécuter. C'est dans le nom. Mais là, c'est un problème de compréhension des consignes. Donc, pour moi, il y avait un truc de brisé.
Alors, je vais citer Giannis Antetokounmpo le 6 janvier. Je vais essayer de traduire en direct. Nous devons être meilleurs, nous devons jouer mieux, nous devions mieux défendre. On doit se faire plus confiance les uns envers les autres. On doit être mieux coachés. Il a sorti ça en sortie de match. Hein. Après les Rockets, vous vous rendez compte du niveau de la décla? de la part d'un joueur. Non, je ne serais pas parti. La déclin de Giannis, je ne serais pas parti avec lui en playoff. Ouais. Quand même, ils ont bien fait de changer, même si c'est pour Doc. Je veux bien défendre le
changement. Oui. Non, oui, j'ai peut-être exagéré, mais la déclaration que tu viens de nous traduire, c'est bien la preuve que les joueurs ne doivent pas choisir le coach. Parce que c'est lui qui l'a choisi, Adrian Griffin.
Et là, ils doivent se mordre les doigts que je l'avais noté dans mes... le 19 octobre, c'est ça. Il y avait déjà eu quand même un signe annonçateur avec le départ de Terry Stotts,
ouais, qui est loin d'être un coach parfait. Il est légendaire ce
mais
départ.
Mais tu vois, là, il y aurait eu... Bon, ils n'auraient peut-être pas cohabité autant de temps, je pense. Hein, mais il y aurait eu Terry Stotts qui était sur le... On serait plus rassuré, par exemple, à choisir entre Terry Stotts, Adrian Griffin et Doc Rivers. Je pense que collégialement, on prend Terry Stotts,
bien sûr.
Par exemple.
Mais juste pour expliquer ce qui s'est passé avec Terry Stotts, il est parti parce que... il était vexé, il voulait rien entendre. C'est ça qui... Et c'est ça le problème, c'est que tu le vois, c'est un signe quand même très mauvais que vraiment dans une discussion entre un coach et son staff, le coach ne veuille pas comprendre qu'on lui dit attention, ça risque de pas marcher avec ton affaire. C'est terrible. Enfin, franchement, c'est extrêmement grave. Et du coup, oui, ils se sont engueulés visiblement, sachant que en plus le front office l'avait pris pour un peu guider Griffin et que c'était ça son rôle, parce que c'était sa première année en tant que coach sur le banc. Et parti 5 jours avant le début de la saison, 2 jours après une engueulade en entraînement. Donc on sait que c'est lié. C'est lourd.
Alors, il y a un commentaire qui fait beaucoup rigoler. Docteur Gourou qui a dit « La déclaration de Giannis est franche. Au moins, il est temps que Curry dise que Kerr est sénile.
» Il y a aussi la Tom qui nous a, parlé de...
Qui nous a dit... Alors oui, Tom.
Ah oui, oui,
raison.
Oui.
La raison.
Oui, on ne dit pas qu'il n'a pas de sang sur les mains. On dit juste que tu vois, je pratique le Tom depuis 10 ans. Tom Feller ici présent. Terry Stotts, Doc Rivers, Adrian Griffin, tu prends Terry Stotts, je pense. Genre pour je pense que
pour organiser une attaque, en tout cas, je prends Terry Stotts.
Ça dépend du contexte, toujours. Ça dépend
pour
du
organiser
contexte.
Une défense, je prends personne.
Mais en soi, tu rappelles Budenholzer pour organiser la défense. Non, en vrai, sans Holiday, c'est tellement différent.
C'est ça.
C'est ça le problème. C'est que Holiday Lillard, ça change un monde. Mais vraiment.
Pendant le training camp. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que je ne veux pas trouver des excuses à Adrian Griffin, mais il n'a pas signé pour ça. Il n'a pas signé pour Damien Lillard qui arrive au training camp. Ouais. Et un autre élément qui m'inquiète un peu, c'est la gestion des jeunes, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui deviennent très intéressants du côté des Bucks, et je me demande si le Doc va pas ressortir les vieux de la vieille, etc. Je pense aux petits... Vas-y.
Il y a des vieux briscards de playoff que Rivers apprécie particulièrement qui vont sans doute se retrouver libres dans les prochains temps.
Ouais, parce que genre les Marjon Beauchamp, les André Jackson, ils en ont besoin. Et il y avait, je pense, cette volonté. C'est pour ça que je pense que Griffin, il avait un projet à 2-3 ans. Il y avait cette volonté de les intégrer peut-être pour être, je pense, de base dans la prochaine bonne équipe des Bucks. C'est qu'en fait, cette prochaine bonne équipe, elle s'est matérialisée beaucoup plus tôt que prévu avec l'opportunité d'Damien Lillard. On va clore ce dossier, les gars, avec une question, parce que j'ai envie de la poser depuis tout à l'heure. Selon vous, la fenêtre, on va reprendre notre concept, la fenêtre de titre des Bucks, elle s'est un petit peu refermée avec ce choix de coach ?
Oui. Moi, je vais répondre oui, parce que l'Est, c'est pas foufou non plus, mais il y a une forme de réarmement récent. Aujourd'hui,
je devrais pas afficher les commentaires. Vas-y, Amine, je suis désolé.
Si on doit considérer les vrais concurrents à leur hache des Bucks, évidemment, les Celtics sont au-dessus actuellement. Il y a les Sixers et le Heat qu'on a appris à ne jamais sous-estimer et qu'on met tout de suite dans ce lot-là. Mais derrière, tu as les Knicks qui ressemblent vraiment à une belle équipe. Tu as les Pacers qui commencent à... On en reparlera un petit peu après avec le recrutement de Siakam qui commence à ressembler à quelque chose de sérieux. Il y a des équipes très sérieuses et si tu n'es pas coaché, bah, ça fait quand même, là j'en ai cité plusieurs, les Cavs vont peut-être se remettre très sérieux avec le retour de blessures et déjà ça fonctionne plutôt bien malgré les blessures. Donc ça fait quand même plusieurs équipes qui sont capables peut-être de beaucoup embêter les Bucks. Donc la fenêtre de titre n'est pas si ouverte que ça alors que tu as deux joueurs presque top 10 des H20. Quoi. Elle est pas fermée la fenêtre de titre, mais elle est incertaine, on va dire.
On a un peu tous pouffé parce que Loïc nous a dit l'ajustement de Doc Rivers en playoff pendant les temps morts. Let's go guys, move the ball. Donc c'est vrai que c'est pas, on n'est pas sur du tactique, sur de la haute tactique. Hein. C'est clair qu'on est sur des grandes batailles. Et il y a aussi Black Goku qui nous dit pourquoi ne pas avoir appelé Budenholzer, tout le monde mettant son ego de côté. Je pense que c'était peut-être un peu dur de le rappeler.
Je crois qu'il en veut à certains là-bas. Hein.
Après, il y a aussi, il a vécu des drames, hein, Budenholzer, donc peut-être que lui-même ne veut pas revenir aussi vite.
Donc. Ouais, rappelons qu'il a coaché endeuillé, etc. Donc c'était pas la fin de la saison était difficile d'un point de vue personnel pour lui aussi. Avançons les gars, je pense qu'on a personnellement, je dirais juste que vu l'inquiétude autour du Adrian Griffin sur les dernières semaines, je suis pas sûr que leur fenêtre se soit ni ouverte ni refermée. Parce que autant on l'avait défendu sur notre podcast, on n'en avait pas parlé depuis, mais ça manquait d'ingéniosité. Et en fait, ça manquait d'une direction. Et je pense que en cela, ce que disaient les joueurs, c'était assez parlant. Enchaînons par un trade. Alors, le premier d'une grande série, on va d'abord parler du trade de Terry Rozier du côté du Heat. Alors, on va être d'accord, je pense, là-dessus, sur celui-ci. Les gars, je vais commencer par toi, Amine, cette fois-ci. T'en as pensé quoi de ce trade?
C'est compliqué. En fait, voilà, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire que le Heat devait faire quelque chose. Kyle Lowry, il ne sert plus à grand-chose, en fait. À un moment donné, il faut aussi admettre ça. Il ne servait plus à grand-chose du côté du Heat. Et du coup, il fallait faire quelque chose. Lowry avait un gros contrat. Ce que tu essaies de faire quand tu récupères Terry Rozier, c'est que tu récupères du spacing. Plus que, je ne parle même pas de shooting, tu récupères du spacing, c'est-à-dire de la dangerosité, ce dont tu commençais à manquer. Un joueur qui n'hésite pas à prendre ses shoots. Après, petit bémol quand même, c'est que c'est un joueur qui n'est pas bon sur catch and shoot. Hein. C'est principalement du pull-up, là où il est plutôt bon à 3 points. Donc, il va avoir besoin de balle en main pour sa création pour lui-même, en fait. Donc, ça, ce n'est pas idéal. Mais disons qu'avec le Heat, j'en ai parlé tout à l'heure, de ne jamais les condamner à être contender ou pas en play-off. Je pense qu'il ne faut pas condamner non plus l'intelligence du meilleur coach de la Ligue, Eric Spoelstra, à réussir à fondre un joueur dans son collectif. En fait, là, je trouve que la grande qualité qu'a Spoelstra et qui manque à quasiment tous les coachs NBA, ce qui fait de lui un peu un extraterrestre, c'est qu'il arrive à optimiser en mettant en avant énormément les points forts de ses joueurs et en gommant le plus possible les points faibles. C'est-à-dire que la plupart des joueurs, ceux qui ne sont pas des immenses superstars, sont souvent beaucoup trop montrés du doigt à cause de leurs points faibles. Et notre ami Spoelstra arrive à gommer ça et du coup, on voit de beaucoup plus tous les points forts. Et Terry Rozier est un joueur qui a des points forts. J'ai envie de dire que ce n'est pas un trade idéal, mais que je vois l'idée qu'il y a derrière.
T'en as pensé quoi, Madiane? Je vais parler un petit peu, moi, personnellement. Alors, c'est un hasard. J'ai regardé les Hornets récemment, avant le trade. Ce n'est pas une équipe que je regarde particulièrement, soyons honnêtes.
Bon courage.
Ils sont passés comme ça, je les ai regardés, et j'avais vu le Heat aussi récemment, et c'était une équipe lente, le Heat, je trouve, en termes de, sur demi-terrain, en termes de joueurs qui sont capables de faire des différences sur le premier pas, qui sont capables de pull-up. Par exemple, Rozier sera, en arrivant, ça sera le joueur qui tentera le plus de pull-up, je pense déjà, et il manquait de cette diversité-là. Alors, oui, Terry Rozier est, on l'a vu depuis le début de sa carrière, à une sélection de tirs qui est problématique. on va dire ça comme ça, mais le Heat avait assurément besoin de ce genre de renfort pour ajouter de la dangerosité, ne serait-ce que sur les pénétrations, parce qu'il ne pénètre pas, le Heat, et l'attaque est extrêmement statique quand Bam n'est pas poste haut pour proposer des choses, des lignes de passe, etc. Donc Spoelstra avait beau faire tout ce qu'il voulait, j'ai quand même du mal à imaginer une équipe du Heat extrêmement dangereuse si elle n'entame pas les playoffs comme une top 15 attaque, ce qui ne sont pas actuellement. Alors, on va parler du prix. Oui, un premier tour protégé, loterie qui devient pas protégée en 2028. On peut mettre en avant le fait que Jimmy Butler est assez vieux, on va pas savoir où sera le Heat à ce moment-là. Après, le Heat reste une équipe qui, historiquement, est quand même assez solide. Donc bon, attention. Pour moi, c'est une opportunité de marché. Tu le fais parce que tu l'as très bien dit, Amine. Kyle Lowry a été le fantôme de Kyle Lowry au Heat. En gros, il a jamais répondu présent. Donc pour moi, ça se fait. Et oui, il y aura beaucoup de travail à faire du côté de Spoelstra parce que la sélection de tir est douteuse. Mais ils avaient besoin des attributs de Rosier. Je ne sais pas s'il va toujours réussir à mettre tout ça en chanson, mais ils en avaient besoin.
Enfin, par rapport au trade, moi, je suis plutôt convaincu parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris une opportunité de marché. Parce que le prix, est-ce qu'il est si élevé? Moi, je trouve pas. Avec du coup, c'était 20e attaque. Ils savaient qu'il fallait passer certains paliers offensifs pour réussir à viser plus. Et clairement, ce sera le cas. Un Kyle Lowry qui donnait absolument pas sa satisfaction sur cette saison, avec une production quand même très limite cette année, ce qui est logique. Hein,
c'est gentil, très limite.
Il a 37 ans, donc moi je prends toujours en considération l'âge des joueurs, hein, et tout le monde ne s'appelle pas LeBron James quand même. Hein. Faut rappeler à quel point il y en a un, il est complètement fou en termes de rendement. Et puis aussi, mine de rien, Rosier, on voit sa période Charlotte Hornets, ok, mais il n'a pas zéro expérience de post-season. C'est pas quelqu'un qui n'en a jamais vécu et qui n'a jamais fait. Quand il était au Celtics, il y a eu des choses, il y a eu des choses même plutôt intéressantes. Certes, c'est il y a un peu longtemps là, il n'avait pas du tout le même rôle, c'est pas ce qu'on va attendre de lui, mais il a quand même des scénarios de grandes playoffs, de grandes batailles avec les Celtics, avec deux finales de conf de mémoire, sans doute deux. Et puis effectivement, donc c'est bien, ça rajoute du scoring. Je trouve que ça se complète bien parce que Jimmy Butler, Bam Adebayo, c'est bien, mais ça rajoute une arme différente. Et je rappelle que le Miami Heat, c'est quand même, pour citer le grand Alan Guillou, c'est une équipe de zombies. Et que Terry Rozier en mode zombie qui pull up, ça peut donner des très bonnes choses en playoff. Et non, moi, je trouve que ça les rend vraiment beaucoup plus dangereux. Là, sur le Heat, on s'endormait un peu en se disant, bon, ils vont pas nous refaire le coup cette année d'éliminer tour à tour les favoris. Là, moi, je doute. Je me dis, tiens, cette équipe, là, d'un seul coup, elle devient plus intéressante, plus dangereuse, plus d'armes, un peu plus jeune, parce que je trouve que niveau âge, c'est vrai que c'était une équipe très vieillissante. Et là, mine de rien, ça rajoute un coup de frais. Ça les rend très intéressants et je pense qu'il y aura des très belles batailles. Et quand tu vois typiquement les Bucks un peu dans le vague, etc., les Sixers mieux que prévu, mais quand même c'est mieux que prévu, mais ça reste pas non plus la force sûre. Alors ok, il y a les Celtics à sortir qui font vraiment 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 peur à l'Est, mais au moins tu te dis ça peut viser des coups et ça peut viser un peu plus que prévu quand on voyait le début de saison du 8.
Tom, le membre de la Cour des comptes, qui nous demande « Sommes-nous sûrs que ce n'est pas un mot financier ?» Oui, Tom, j'ai fait mes recherches. Je sais qu'avec ce trade, ils passent d'une taxe à 29,4 millions à 13,9 millions. Ils économisent donc 15,4 millions. J'ai fait cette recherche, Tom. Mais effectivement, c'est une opportunité de marché. On l'a dit, les gars, après l'historique de Terry Rozier en playoff avec les Celtics.
C'était il y a longtemps.
C'était il y a longtemps, à voir ce que ça peut donner, mais qui faisait moi, je trouve qu'il faisait pas une mauvaise saison de ce que j'ai vu d'Hornets. Je suis complètement honnête, c'est pas l'équipe que je regarde le plus, mais c'était un boost nécessaire du côté du Heat. Moi, j'avais noté ça, c'était très intéressant. C'était la première fois depuis la trade deadline 2021 que le Heat acquiert un joueur en saison dont le contrat se finit pas à la fin de la saison en question. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont empoché de l'argent sur plusieurs saisons. Et c'était quelque chose que le Heat, d'après certaines sources, enfin, NBA, on n'a pas de sources, d'après ce qu'on pouvait lire, n'était pas forcément prêt à faire. Donc, je pense vraiment qu'il y a une idée d'opportunité. Et oui, Terry Rozier a des pourcentages et des réussites, pourcentages de réussite très, très fluctuants. Mais en soi, un joueur qui peut pull-up avec ce volume-là, ça reste intéressant. Il y a quelque chose à travailler. Quand même.
Ouais, et puis tu as parlé du prix de manière générale. Je pense qu'on est à une époque aussi où on surestime beaucoup les first round de draft. À chaque fois qu'il y en a un qui est envoyé, on se dit « Ah, c'est cher un first round », mais en vérité, une équipe comme le Heat doit envoyer ses firsts pour chercher des joueurs. Terry Rozier, c'est un joueur et un contrat qui va rester tradable. Donc, c'est un move pour cette année. Ce n'est pas un move forcément pour les 3-4 prochaines années. Moi, j'ai des doutes quand même aussi. J'ai des doutes. Là où j'ai un peu de doutes, c'est le fait qu'il bénéficiait d'un gros usage du côté de Charlotte. Il était à peu près à 27%. Et je me demande, j'en suis pas sûr, mais je me demande que si ce n'est pas un joueur qui fonctionne mieux quand justement il a le temps de se chauffer et qu'il a le temps de prendre pas mal de shoots. Et j'ai un peu peur du risque du côté moins d'usage, encore moins d'efficacité, encore plus de shoot casse-croûte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a un petit peu peur du côté mental, du côté de Terry Rozier. Mais encore une fois, j'ai envie de laisser la chance parce qu'il y a Spoelstra sur le banc.
C'est vrai que il y a le Terry Rozier, et ça date de Boston et celui des Hornets. Donc, c'est vrai que tu as raison. Je l'ai pas indiqué, Amine, mais tu as bien fait de le faire. C'est un joueur qui a un contrat à hauteur de 23 millions cette année, 24 l'année d'après, 26 celle d'après. Dans la NBA actuelle, ça s'échange pour un mec, un joueur qui est un titulaire NBA. Terry Rozier, c'est un titulaire NBA. Certes, qu'il l'a fait peut-être dans une équipe qui était loin d'être impressionnante, mais il a su le faire. On nous dit, du coup, Loïc qui nous dit, Ben, il est abonné au League Pass juste pour les Hawks, je suis sûr, clairement. Hein, j'ai demandé, en plus de la nationalité brésilienne, j'ai demandé, du coup, un League Pass uniquement Hawks. Et effectivement,
c'est moins cher, Ben, c'est bien. Tu as fait des économies.
C'est bien. J'ai la double nationalité, tu sais, Manuel. Et puis, oui, c'est peut-être un joueur à volume. Il y a de ça. Après, il va pouvoir prendre une partie moins conséquente, certes, parce qu'en plus, il y a la période où il n'y avait pas la mélo, mais je pense que l'idée, c'est de lui donner un peu de volume du côté du... Alors, rien comparable, hein, mais lui donner un peu de volume du côté du hit. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de ce trade côté Hornets, les gars? Est-ce que les Hornets, on agite le drapeau blanc, là?
Ah oui, là, il y a un beau drapeau blanc quand même, qui est agité. Après... C'est tôt dans la saison, non? Oui et non, parce qu'ils ont quand même essayé, mais là, quand tu vois les dynamiques, les équipes, etc., ouais, ça vaut le coup d'agiter le drapeau blanc. Ce qui me dérange, c'est peut-être que c'est pas la cuvée de la draft la plus incroyable ou la plus intéressante de ce qui se murmure. Après, je suis pas extrêmement spécialiste, je me fie des retours qu'on me donne dessus. Mais
ils sont pas bons, on va être honnête, on n'est pas spécialiste, mais qui sont affreux, hein, clairement.
Ouais, c'est la draft prend un peu cher, surtout dans le top 15. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y aura pas des pépites. Enfin, disons que le haut de la draft est assez homogène et que finalement, entre être tout en haut de la draft et au milieu de la draft, ça peut finir en une draft où tu draftes le meilleur joueur bien plus bas que prévu. Ouais, c'est typiquement une draft qui a l'air de ressembler à ça de ce qu'on nous dit.
Ce qui arrive souvent. Coup... Mais je rajoute ma petite pièce qui arrive en réalité souvent. Le premier est vraiment le meilleur. Mais
L'an dernier, celui de l'an dernier, il est incroyable. Et l'année d'avant aussi, il est très très bien.
Je suis désolé, Madiane, vas-y.
Non, mais du coup, je trouve que oui, le drapeau blanc est acheté pas dans la bonne année, un peu tôt. Bon. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher de faire ce move vu la preview, ce qu'on en pensait d'eux peu avant le début de la saison. Ils sont quand même pas très bons offensivement, pas si bons que ça défensivement malgré Clifford. C'est aussi ça qui fait un peu mal, je trouve. Et en fait, ils sont, faut tout rebâtir, faut tout refaire là-bas. C'est assez dramatique. Ils se sont jamais remis de l'été cataclysmique qu'ils ont vécu il y a maintenant deux saisons. Après l'élimination au play-in honteuse, ben, tu te remets pas d'un tel été, et je pense que ouais, réappuyer sur reset, ça va faire du bien, parce que ben, t'as beau avoir aller la mélo autour, c'est le chaos.
On salue ceux qui sont arrivés entre temps. On est actuellement en train de parler des Hornets. On a fait une longue page, si vous voulez aller écouter ça. On a fait une longue page sur les Bucks. On a dit beaucoup de bien de Doc Rivers. Amine, je vais vers toi du coup. T'as pensé quoi de ce trade? Rappelons du coup, d'un point de vue financier, que pour ce qui est des contrats, Gordon Hayward et Kyle Lowry sont en fin de contrat cette année. Du coup, du côté des Hornets. Et il faut rappeler du coup le cas Miles Bridges, dont on n'a pas vraiment envie de parler, mais qui est dans des rumeurs de trade. Et il faut rappeler que Miles Bridges, vu sa situation salariale, a un droit de veto sur un trade. C'est-à-dire qu'il doit, il peut dire oui. Enfin, il a un droit de veto, tout simplement. Vas-y.
Bah moi, j'aime bien. J'aime bien ce qu'ont décidé de faire les Hornets. Et surtout, c'est un peu le premier move du nouveau propriétaire. Donc, il a un héritage terrible. Hein. Disons que l'ancien propriétaire était peut-être le pire propriétaire de la NBA avec les pires choix. Je ne citerai pas son nom pour ne pas m'attirer les foudres, mais néanmoins, ce qu'on a vu du côté de Charlotte en termes de décision ces dernières années, c'était assez catastrophique. Et je pense que c'est mieux de ne pas perdre de temps. Et j'espère pour eux que c'est un move qui en appellera d'autres et qui vont faire le ménage. Pourquoi pas garder la mélo, essayer de... enfin pourquoi pas, j'imagine que tu peux dire qu'ils vont garder la mélo, ouais. Garder un Mark Williams par exemple qui a des choses intéressantes, garder un petit peu le petit pool de joueurs à développer encore et sur lesquels tu peux espérer, mais garder également Brandon Williams qui mine de rien, même si on s'est beaucoup moqué du fait qu'ils aient fait ce choix
Brandon Miller. Choix de
Raff, oui, Brandon oui, Miller. Oui,
excusez-moi.
J'ai dit Brandon Williams. J'ai eu un doute.
J'ai dit Brandon Williams, c'est ça?
Ouais, c'est ça. T'as fait un mélange entre Mark Williams, Mark et Williams. Brandon Williams.
Donc le choix Brandon
qui
Miller.
Qui sera un très bon joueur, hein, je pense. Il a beaucoup de qualité.
Oui, du coup, je trouve que Brandon Miller a monté des choses intéressantes et a un potentiel à se développer. Il a un potentiel physique notamment, s'il peut progresser sérieusement. Donc, tu as les bases pour construire quelque chose. Donc, pourquoi pas faire table rase un petit peu des choix douteux précédents et recommencer sur une page blanche. Moi, je suis toujours dans l'idée, je soutiens toujours les équipes qui font les moves pour être vraiment contender ou les moves pour « ça ne marche pas, on recommence à zéro ». J'aime pas le ventre mou. Donc, à partir du moment où les Hornets partent dans un concept de on repart de un peu plus bas, moi, ça me convient. Donc, je trouve que c'était ce qu'il fallait faire.
Il faut rappeler aussi qu'il y a une notion, je disais ça beaucoup, de timeline. Il n'était pas au même stade de sa carrière, Terry Rozier, par rapport aux jeunes joueurs. Donc, il y a de ça aussi. Je vous rejoins complètement. Et il y a cette volonté de. On va peut-être entamer une phase de. On utilise le terme retooling, réoutillage, mais je ne sais pas si les Hornets sont assez hauts pour qu'on puisse utiliser ce terme. En tout cas, s'il y a une autre phase de reconstruction, de semi-reconstruction, c'est la période où tu dois identifier tes jeunes talents. Effectivement, LaMelo, Mark Williams, Brandon Miller, tu as cet axe ailier, porteur de balle, protecteur de cercle. P.J. Washington, c'était dit par Dr. Gourou à leur place, je chercherai à le trade P.J. Washington, c'est ce que nous disait Dr. Gourou. Je suis plutôt d'accord, c'est un joueur qui a plutôt de la valeur et moi, c'est un joueur que ça fait des années que je veux le voir dans un autre contexte que celui d'Hornets parce que, en fait, c'est peut-être pour des mauvaises raisons, mais je pense que c'est un joueur qu'on voit peut-être un peu trop beau à cause du contexte Hornets, mais le fait est qu'il a un contrat dégressif, donc ça pourrait intéresser certaines franchises, donc on est dans une phase où on doit faire ça. Effectivement, la draft est peut-être pas la plus folle, mais là, ils ont besoin de recentrer, de, je pense, réidentifier les talents. Et puis aussi de repartir sur des bases où le problème d'un joueur comme Terry Rozier, c'est qu'il n'est pas dans ta timeline et qu'en plus, il aspire beaucoup d'usage. Et là, bah, donnons les ballons aux jeunes, quitte à ce qu'ils fassent des erreurs. Tout simplement. Donc,
Et le premier tour, et le premier tour, mine de rien, enfin, on l'oublie, c'est la contrepartie.
Ouais. Pour avoir écouté les podcasts, je te coupe, Madiane, les podcasts du 8 disent « Ouais, c'est un premier tour, on sera top 5 à l'aise, il n'y a pas de problème. » Et les podcasts du Hornets disent « Les gars, attention, le hit en 2028, on ne sait pas.
Okay. » Non, on ne sait jamais, mais en fait, ça reste quand même une contrepartie intéressante si tu as envie de retouler et de rebuild et de revoir ton effectif. En vrai, tu te dis « Terry Rozier, tu récupères un vétéran, alors vont-ils le garder ou pas ?» A priori, peut-être que oui. Et du coup…
Ça, c'est bizarre d'ailleurs, mais passons.
Mais non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant d'avoir des vétérans. Tu vois bien que, par exemple, il y a des gros vétérans. Je pense à Ishmis qui traîne dans l'effectif. Et du coup, c'est toujours utile d'être des petits vétérans quand même dans des rosters. C'est pour ça que c'est toujours très étonnant quand des équipes sont remplies de jeunes et performent. Mais ça fait aussi très plaisir. Mais moi, je pense que quand tu essaies de reconstruire, avoir des vétérans qui connaissent le métier, qui ont pu voir beaucoup de choses en NBA, ça peut être quand même très intéressant pour le développement de tes jeunes talents. Donc non, moi, je suis pas… Je comprends. Et non, les contreparties sont pas si nulles, surtout pour Terry Rozier. Franchement, c'est pas un trade où chacun avait ses objectifs et je trouve que chacun s'en sort avec des éléments intéressants pour évoluer. Le Heat, là, dans sa saison, pour se donner des armes. Et les Hornets, ils ont peut-être quelque chose d'intéressant dans le futur, ou peut-être pas. C'est toujours un ticket de loterie. Et effectivement, est-ce que tu avais en plus vraiment besoin de Terry Rozier dans ton effectif pour pouvoir jouer un basket convenable? Pas forcément.
Amine qui rigole devant une question de Tom, je pense. Ouais. Petit élément, rappelez
oui, c'est vrai, ça.
S'il y a une phase de retooling ou de réajustement, je viens de vérifier en direct parce que je n'étais pas sûr, mais effectivement, c'est le seul premier tour qui vient d'une autre franchise qui arrive vers eux. En fait, ils n'avaient aucun premier tour qui devait aller vers eux. Alors, il y a aussi, on n'est pas rentré dans le détail parce qu'il y a aussi la question, c'est un premier tour de OKC qui doit être converti par le Heat en 2025. C'est un truc un peu compliqué, mais passons. Du coup, très bonne question de Tom. On ne connaît pas cette personne. Qui nous dit Charlotte avec du cap space, avec l'obligation de l'atteindre le salary floor l'été prochain. Vous pensez qu'ils mettent combien sur Tobias Harris cet été, Gordon Hayward style? Amine, je te sens très inspiré.
Moi, j'ai hâte de voir la lutte entre les Pistons et les Hornets pour signer Tobias Harris, ce qu'on appelle dans le milieu une sorte de combat d'infirmes. Excusez-moi de l'expression. mais oui, je pense que Tobias Harris, vu ce qui se profile au niveau du cap space, il aura encore un très beau contrat l'année prochaine, même si certains vont encore être choqués. Mais néanmoins, je pense que ce genre d'équipe... va se positionner.
Et il sera plus que jamais, il y a ces stats incroyables avec Tobias Harris, c'est donc le joueur qui n'a pas fait le All-Star, qui a le plus gagné dans l'histoire de la NBA, et il risque de continuer à beaucoup gagner. C'est une de mes stats préférées sur...
Mais il me semble que j'étais là quand on avait parlé justement de Tobias Harris à venir, qu'est-ce que tu fais? Et c'est souvent en fait le cas quand t'es une équipe comme les Sixers, tu remets souvent des jetons dans la machine pour essayer de rester en haut, bah forcément, en fait, tu te retrouves coincé à devoir reproposer de l'argent tout le temps aux joueurs parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas trouver de mieux? Et c'est toujours ça, par moment, qui est difficile, c'est que tu vas un peu, entre guillemets, surpayer, mais en fait, sur le marché... Même si tu payerais moins cher, tu n'auras rien de mieux. Donc, autant balancer des sous et rester avec ce que tu as parce que tu n'as pas de possibilité d'amélioration sinon.
Oui, à l'époque, c'était aussi des choix très douteux de Delton Brand quand même.
Il y a une erreur au départ, mais après, derrière, tu assumes et tu continues avec.
Il y a Chris qui nous demande quel profil faudrait-il à côté de la Mélo. Je pense qu'à l'heure actuelle, le front office se dit... On a peut-être le profil du 5 qu'il nous faut, on a peut-être le profil de l'ailier qu'il nous faut, et la question c'est de maintenant de les faire jouer ensemble et d'ajouter 2-3 profils ailleurs. Mais je pense que le front office pense avoir... Alors, ce que je lis et ce que j'entends du côté des Hornets et des fans de Hornets à propos de Mark Williams m'amène à m'inquiéter un peu, parce que j'ai peur qu'on tombe dans le cas classique du jeune pivot qui est un petit peu surévalué parce qu'il est quand même dans un registre offensif assez
limité,
frustre, très limité pour l'instant, mais je pense que c'est le front office pense avoir les bons profils à l'heure actuelle. Les gars, on va avancer. On devait un petit peu parler d'Indiana, de Pascal Siakam en quelques mots, parce qu'on vous l'a dit, on va faire une spéciale Toronto bientôt. Parlons de Pascal Siakam, mais plutôt du point de vue Indiana. On va faire simple, on valide complètement, les gars.
Ah oui, 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 c'est magnifique. Intéressant quand même.
Magnifique. C'est vrai qu'on vas-y, vas-y, Madiane.
Non, bah forcément, en plus, avec Haliburton qui nous fait quand même une très belle saison, il y a quand même un petit coup à jouer pour ces Pacers. Je trouve que ça fit bien aussi avec Indiana, l'idée. En plus, très vite, il a l'air d'être ouvert à une signature, ce qui explique un peu le move quand même.
Un peu beaucoup.
un peu beaucoup le move. Bah, après, t'en vois pas ça si t'es pas... T'as pas quelques petites garanties, mais ouais, ça fait plaisir. Et puis tu te dis que là où les Pacers des fois font un peu peur dans leur histoire, à un peu s'endormir, à se dire on va être une bonne équipe et ça va être très bien. Ben non, là c'est aller chercher Pascal Siakam qui était un peu l'arlésienne du trade, parce que du coup on en plaisantant en disant OG Anunoby s'est fait trader avant. En plus, en soi, le prix que tu as payé, il est pas si élevé. Ça aurait pu être pire vu l'inflation qu'il y a eu sur des joueurs de ce calibre. Donc voilà, très bon fit, et puis on a hâte de voir comment ça va se développer, parce que je pense que ça va donner de belles choses là-bas.
Je remarque qu'on n'est pas encore des pros du streaming, que quand j'affiche une question longue, Madiane disparaît. Donc en tout cas,
et si je me baisse, il me semble, voilà. Il
y a qui disparaît complètement. En tout cas, Logan qui nous dit supporter. Alors, au vu de la photo de profil Tyrese Haliburton, j'imagine supporter des Pacers, qui nous dit son scoring sera mis en valeur. Il n'a jamais évolué avec un playmaker du niveau de Tyrese. Et dans un spacing comme cela, le front de court défensif Nesmith Siakam Turner fera le job sans être élite. Et il avait rajouté, parce que j'ai mis le mauvais commentaire en premier, sportivement, le fit est excellent. Second créateur dans le 5. Seul Tyrese en était capable pour l'instant. Beaucoup d'alternants, joueurs ultra optimisés car moins responsabilisés. Raptors, on est d'accord les gars, est-ce que je pense que c'est plutôt bien résumé. Alors les qualités de création de Pascal Siakam, second créateur, je pense que c'est peut-être
pour lui-même.
Ouais, plus pour lui-même, mais en tout cas, est-ce que ça fait passer un cap dans la hiérarchie à l'Est pour toi, Amine Spacers?
Oui, carrément. Après, moi, je ne me cache pas, j'adore Pascal Siakam. Je trouve que c'est un joueur sous-évalué. Sous-évalué aussi parce que victime du côté devenir, il a été première option à Toronto trop longtemps, alors que c'est pas son rôle, c'est pas un joueur qui est capable de driver une équipe à lui tout seul. Et là, je trouve que le fit, il est parfait. Pascal Siakam, les interrogations qu'il posait pour les équipes qui pouvaient éventuellement le chercher, c'est celles qui n'avaient pas un spacing déjà de qualité, parce que c'est pas un joueur qui s'intègre dans le spacing. Là, en Indiana, ils ont déjà un très bon spacing. Ils ont Haliburton à la création. Siakam, il est parfait. Il va justement faire sa création pour lui-même et il est très bon là-dedans. C'est aussi un excellent défenseur. Le front court, je trouve que, et pas seulement OK, je trouve que le front court fait un peu peur quand même, même si Turner, on va dire qu'on a des doutes un peu sur Turner. Peut-être que lui est plutôt surévalué que par rapport à Siakam sous-évalué. Mais néanmoins, Nesmith, Siakam, Turner, ça fait quand même peur en termes de défense que tu vas te prendre dessus. Et moi, je trouve que c'est vraiment c'était le mariage parfait, surtout que Siakam, justement, comme l'a dit Madiane, semble prêt à re-signer. Moi, j'aime beaucoup et je vais beaucoup regarder les Pacers. Déjà qu'il y avait Haliburton, maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose de sérieux. En plus, ils ont un coach, donc c'est parfait.
En plus, il y a un point qui est intéressant dans le fit Siakam là-bas, c'est la capacité aussi à être très utile dans les attaques rapides, la transition. Avec Haliburton, je pense que ça a bien poussé la balle Ça va être extrêmement intéressant pour trouver des bons paniers faciles aussi pour cette équipe des Pacers. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et dans l'exploitation aussi des mismatchs, il va quand même être vite trouvé. Et c'est intéressant aussi d'avoir un fort créateur autour de lui. Moi, je préfère... Enfin, je trouve qu'il est encore plus important d'avoir un fort créateur autour de Pascal Siakam que de se dire on va lui confier la balle. Limite, ce que je pense, c'est qu'il faudrait un peu plus de joueurs capables de poser la balle et d'organiser le jeu aux Pacers pour que ce soit encore meilleur comme situation. Bon, ça reste une très bonne situation, mais ça pourrait être mieux. Siakam balle en main, oui, mais c'est pas là où je pense où on voit le mieux de ce qui peut produire. Et non, ça fit quand même sacrément bien cette affaire. C'est vraiment un beau move.
Je voulais juste dire, Siakam balle en main. C'est pas l'idéal, effectivement, mais en play-off, tu seras content de pouvoir compter sur un joueur capable de faire ses isolations, d'aller chercher ses mid-range et tout. Oui. C'est quelque chose qui manquait clairement dans l'Indiana, et ça va faire... Justement, ils vont connaître les play-offs cette année, et ça va être un joueur très important.
Après, à surveiller toujours avec Siakam le degré d'efficacité sur les iso, parce qu'il y a quand même... Il y a eu des séquences où il jouait de l'iso, mais il était ultra inefficace. Logan qui nous précise second créateur dans le sens où actuellement il y a 4 autres finisseurs d'action dans 5, ce qui provoquait des trappes sur Tyrese par séquence, effectivement, les trappes qui ont coûté certains matchs aux Pacers. C'est vrai que après, si par exemple tactiquement, si tu trappes et que tu donnes la balle à Siakam, je suis pas sûr que tu aies de la lecture de jeu très très avancée, mais Siakam sera capable de faire une passe assez simple et de la lecture simple. Poser le ballon, faire la passe au mec ouvert, je pense qu'il est capable de faire, mais il ne crée pas des lignes de passe, Pascal Siakam. Mais c'est un joueur qui, effectivement, plus que la création, c'est, tu l'as dit, Amine, c'est cette dimension où être un danger balle en main et se créer son tir qui est assez intéressant. Après, effectivement, c'est une équipe qui aura un front de court très impressionnant, et ça, c'est quand même. N'empêche, quand tu regardes le haut de l'Est, c'est quand même plus que nécessaire d'avoir un front de court qui tient la route. Se posera la question de leur ligne arrière défensivement et de la capacité qu'aura Tyrese à continuer à avoir une charge offensive si forte en play-off, et de l'autre, pas subir trop en défense. Mais non, c'est un move. Les Pacers, ils ont deux joueurs top 25 DH joueurs, en fait. Et quand on a deux, quand Rick Carlisle fait un bon job, tu peux prétendre à passer un tour de play-off si ça tombe bien. Si tu tombes pas sur un des deux ogres, c'est pas inimaginable, quoi.
Mais ça va être super important pour leur seeding, parce que finalement, qui tu veux éviter le top 2. Là, actuellement, ils sont
à vous entendre, tout le monde tape Doc Rivers et les Bucks. Non, je rigole.
Ben non, il a dit éviter le top 2. Pour l'instant, le top 2, c'est les Bucks aussi, hein.
Oui, c'est ça. Moi, je pense quand même qu'il vaut mieux éviter, tu vois, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, ça fait peur. Bon, Doc Rivers, ça donne quelques motifs d'espoir. Mais t'essayes quand même d'éviter Lillard. Lillard, ça peut être très vite énervé en play-off, et Giannis aussi. Mais oui, tu veux peut-être éviter le play-in. Tu vois quand même qu'autour de toi, les Knicks, quand même, ça carbure. Que devant, ça commence à devenir inaccessible. Sixers, Bucks, Celtics, à mon avis, ça va pas bouger. Et que derrière, en plus, t'as le Heat, qui en fait est souvent une équipe un peu diesel et qui peut peut-être nous faire une bonne fin de saison. Et du coup, faut viser à pas être dépassé par eux. En vrai, la situation des Pacers, garder le sixième strapontin, ce serait ce sera vraiment compliqué. Et clairement, c'est des moves importants pour eux, parce que il faut se renforcer à l'Est, et l'Est est assez serré dans le haut, avec des très bons bilans un peu partout, parce que finalement on a le Magic qui est en 23-21, et tu remontes au Cavaliers, c'est du 26-16. Il y a 3 victoires d'écart entre les... Alors oui, en termes de match, c'est pas la même chose, mais il n'y a pas énormément de victoires d'écart, et c'est très resserré comme classement.
Puis plus que pour cette année, c'est peut-être l'optique, si Pascal Siakam re-signe, d'avoir un fort un one-two-punch de qualité. Ouais. Ça, c'est
clairement.
Pour eux. Finissons, on invite les gens dans les commentaires à faire quelques observations, nous poser des questions s'ils en ont, etc. Amine, c'est passé quelque chose du côté des... Tom qui nous demande quand même, on est obligé de répondre à... Je suis contractuellement obligé. Heat, Pacers, Cavs ou Knicks, quel bilan pour ces quatre équipes sur les 40 derniers matchs selon vous? La question est dure, Tom. La question est dure.
C'est dur.
À ce moment-là, je veux... Il faudrait les calendriers, il faudrait les... La question...
Alors, je peux dire un truc. C'est que typiquement, ouais. je suis très mauvais à cet exercice parce que typiquement, après le trade qu'avait fait les Knicks, j'étais sceptique, un peu pas très convaincu. Alors, j'avais dit que j'avais un amour... déraisonné pour RJ Barrett que je ne pouvais pas rationaliser, mais j'étais très sceptique. Et typiquement, force est de constater que les Knicks ça roule, hein, par exemple. Et c'est très dur à évaluer ce genre d'équipe parce que sur le papier, tu dis bah, qu'est-ce qu'ils ont vraiment de plus par rapport à bah, Cavs, Pacers, Heat. Moi, j'ai l'impression que avec ces équipes, bah, ils sont comme un ton en dessous. Bah non, hein, ça. Ça marche bien en ce moment. Donc, c'est quand même très compliqué. C'est vraiment compliqué à évaluer.
L'équipe la plus convaincante des quatre dont nous a parlé Tom, c'est les Knicks pour moi, actuellement.
Bah, en tout cas. Oui.
Et ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je ne serais pas étonné. Alors, tu as raison, Madiane, le Heat, c'est un diesel, mais parfois, c'est un diesel jusqu'à très longtemps.
Parfois, c'est jusqu'à
la fin de la saison régulière.
Ouais, et après, ils arrivent premier tour de play-off et ils tapent tout le monde.
Je ne serais pas étonné que le Heat reste en mode diesel encore un petit moment. En tout cas, les dernières prestations ne sont pas hyper encourageantes pour le moment pour le Heat. Donc,
Heat Bucks au premier tour, ce serait incroyable.
Je pense que j'ai trop pensé la question terre à terre. Moi, les gars, c'est juste que je n'ai pas les calendriers. Ça se trouve, il y a une de ces deux équipes qui a un road trip affreux à l'ouest qui lui reste, où il y en a une qui a beaucoup plus de matchs à domicile ou à l'extérieur que l'autre. Donc, je ne m'avance pas. On a déjà fait assez d'erreurs en termes de pronostics dans notre petite histoire. Amine, je retourne vers toi. Et pendant ce temps, je vais lancer une petite devinette dans le chat. C'est pour ça, ceux qui nous écoutent en podcast, en replay, vous allez essayer de deviner aussi, parce que vous allez aussi travailler. Joel Embiid a donc marqué 70 points en prenant 39 tirs. Peut-être que vous l'avez vu passer depuis la saison 80. Qui a pris le plus de tirs sur un match de saison régulière en NBA? Je passe de tentative, alors 2-point field goal attempt selon Basketball Référence, qui a pris le plus de tirs à 2 points, du coup. Amine, 70 points, quelle sensation devant ce match?
Du pur bonheur. Du pur bonheur, et c'est peut-être le match qui m'a... Alors, je vais dire la phrase, l'optimisme, ce poison. Mais ça m'a redonné de l'optimisme. Pourtant, c'est pas le match qui est censé me redonner spécialement de l'optimisme. Mais en tout cas, la perte de Joel Embiid était sensationnel. Alors, c'est face à des Spurs très particuliers, même si j'ai vu des tweets passer avant le match où certains disaient que Wembanyama allait éteindre Joel Embiid. On a vu que c'était pas tout à fait le cas. Et vous m'entendez toujours? Parce que
oui, on t'entend toujours. Tu ne bouges plus, mais on t'entend toujours. Okay. Amine.
J'ai trouvé que c'était un match énorme. La quantité justement de tirs pris, les ISO en mid-range, son mid-range, il est devenu d'un létal assez incroyable. Il fait une saison exceptionnelle de manière générale. C'est peut-être la saison où il le mérite le plus, son MVP justement, hein, plus encore que l'année dernière. Et en tout cas, on va voir la suite. Mais ce que fait Nick Nurse de manière générale avec les Sixers cette année, c'est vraiment très intéressant. Il y a une meilleure profondeur. À un Marcus Morris prêt, en tout cas, il y a une meilleure profondeur. Et moi, j'ai un peu d'espoir. Je n'ai pas d'espoir pour être un vrai contender et aller au bout. Quoique les absences, les blessures, etc., on ne sait jamais. Mais néanmoins, ce qui me plaît, c'est que là, j'ai moins peur de ça va s'arrêter en demi-finale de conf. J'ai un espoir pour que ça aille un tout petit peu plus loin.
Alors, Tom nous dit « Tu ne bouges pas, mais on t'entend toujours. » C'est que les équipes disent aux Pistons en regardant vers le bas du classement. Pas mal. Effectivement, on a un freeze d'Amine. Mais... Alors, on va être honnête avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. On teste une nouvelle plateforme ces derniers temps et on a perdu Amine. Donc, peut-être que le test de la nouvelle plateforme en direct était nécessaire. Amine va sûrement revenir. Je pense qu'il va être là incessamment sous peu. Pendant que je fais un petit peu attendre et qu'on gagne du temps, parce que c'est ça le live, savoir gagner du temps, revenons donc sur la devinette. Madiane, est-ce que tu l'as ? Parce qu'en réalité, j'ai refait ma recherche parce qu'en fait, j'avais mal paramétré Basketball Reference, StatEd en l'occurrence. J'avais cherché que les tentatives à deux points. Mais si on prend toutes les tentatives globales, alors Logan, si ça t'intéresse, on n'utilise plus Riverside justement. On était sur Riverside et on change un peu parce que c'est des trucs techniques. Riverside pose quelques problèmes. Qui aurait... il y a la bonne réponse dans le chat.
Il y a la bonne réponse, mais moi en fait, du coup tu ne m'as pas donné raison parce que j'ai déjà joué à la devinette et j'ai pas voulu tricher en recherchant. Moi je pariais sur le monsieur qui se trouve ici.
C'est au fond d'écran, Kobe. Alors là, on va reparler de ta présence dans le podcast, Amine. vas-y.
C'est moi je pariais sur son match à 60 points parce que moi je me souvenais que il avait bien forcé pour les mettre ces 60 points, mais ça a pas l'air d'être ce jour-là.
C'est ça. Il en avait pris la bagatelle de, est-ce que tu peux deviner,
47
50
50
il avait pris 50 tirs. On est un petit peu dans l'abus, hein, quand même.
Alors en même temps, vu la saison, parce que la dernière saison de Kobe, et d'ailleurs, c'était les 4 ans de sa disparition très récemment, les 60 de Kobe, s'il avait bien forcé, et la fin de saison, on voyait bien que ça forçait très fort sur les tirs, donc on s'y attendait un peu. Voilà, c'était une parodie finalement. Alors, c'est très beau comme souvenir, mais c'était quand même une parodie de basket parce que il y avait un Kobe count, je me souviens, en bas. C'est-à-dire que le score n'était pas très important. C'était le nombre de points que Kobe allait marquer dans ce match. Et je rappelle que ce match, parce que je l'ai vécu en live, et alors que le 73-9 avait lieu le même
tout
soir.
Tout le monde s'en fichait.
Et tout le monde s'en fichait. C'est quand même dingue, c'est qu'en fait, les Lakers ont perdu pendant très longtemps ce match. Ils étaient censés le perdre. Et... tout le monde s'en foutait parce que le Kobe Points en bas avait dépassé la barre des 50. C'était n'importe quoi. Donc oui, ça ne m'étonne pas que ce soit ce match-là.
Pour Amine, du coup, la réponse était Kobe parce qu'en fait, j'avais ce dont on avait parlé avant de commencer. J'avais cherché que les tentatives à deux points. Donc Kobe avait pris la bagatelle de 50 tirs dans ce match. Alors, le top 15 est assez marrant, les gars. Je voulais partager l'écran, mais on ne maîtrise pas encore bien l'outil. Je le ferai peut-être une prochaine fois. Le top 15, écoutez.
Alors, on peut peut-être tenter de lister les joueurs avec Amine.
Alors, dans le top 15, il y a seulement un.
Il y a deux... combien donc, je pense qu'il y a au moins 4-5 occurrences de Kobe, parce qu'il y a quand même eu des sessions boulimiques.
C'est là où c'est marrant. C'est parce qu'en fait.
Non.
Allez, vous allez essayer de deviner certains des joueurs. Allez, c'est un live, on est en détente. J'essaie de compter le nombre de joueurs différents. 1, 2, 3.
Donc là, 4, on est sur le top 15 de
5, 6.
Nombre de tirs pris par match.
Nombre de tirs pris depuis 1980, il y a 6 joueurs différents dedans.
Bon, il y a Embiid. Non.
Non, il n'est pas dedans. Parce que le dernier, il a 42. Donc il n'est pas dedans.
Est-ce que le dernier, il a 42.
Je prends un risque, mais est-ce qu'il y a James Harden?
Donc déjà, alors il n'y a pas Harden, mais déjà il y a Kobe. Donc vous n'en avez que 5 à trouver, techniquement.
Kobe. Et Booker 70.
Non, il n'est pas dedans.
Il est 20, depuis 23. Depuis 80, t'as dit.
Depuis 80. Depuis 80, il y a quand même un joueur.
Jordan.
Jordan, très bonne réponse. Qui est numéro 2 à 49, numéro 10, 11, 12. Donc il est très présent. C'est le plus présent avec Kobe.
Tu as cité des noms tout à l'heure hors antenne.
Mais ce n'est pas les mêmes. Parce que il y en a un ou deux, mais alors on
Arenas.
Arenas, c'est une bonne idée.
Arenas n'est pas dedans. Alors, je regarde les noms dans les. Je vais pas. Il y a des bons noms dans le chat, donc je peux pas. On va donner
Iverson, Iverson, effectivement, du chat.
Ah oui,
j'aurais
bah
pas
oui.
dû me tourner vers le chat, mais Iverson, bah quand oui. même.
Iverson, 14e, il avait pris 42 évidemment. Tirs un soir de janvier 2000.
J'arrête de regarder le chat parce qu'il y a des trop bonnes idées.
Alors, attention, le chat, 1980 le début, donc pas de Wilt.
Et
pas...
Crocker, j'aurais T-Mac.
Non, alors pour vous donner des indices, il y en a un qui joue encore NBA. Hein.
Ah, il y en a un qui joue encore en NBA.
Il joue encore NBA. Ouais.
Ah, mais attends, il joue encore, donc ça fait longtemps. Ah, ah.
Il en a pris 44, ce qui est inhumain quand même.
Waouh. Moi, de ceux des actuels, j'ai le premier qui est venu, c'est Harden, époque Houston, mais
non, mais il joue encore.
Harden, dans ce classement-là, il en a déjà pris 41, mais pas assez. C'est une dinguerie quand même parce que le top 20, je crois qu'il y a 10 occurrences de Kobe. Hein, mais bref, passons.
Oui, non, mais ça Kobe, on s'en doutait.
Il y en a un qui joue encore, il y en a un qui est difficile à trouver. En vrai, il y a trois décennies.
Il n'y a pas de Jamal Crawford sur une connerie là.
Ah oui, c'est vrai.
Un peu débile.
Non.
Il me semble qu'il a une occurrence de match un peu débile.
Ouais, ouais. Il a fait un match de fou comme ça là. Ouais.
Alors, je peux pas tout dire le chat parce que il y a des réponses intéressantes. Donc, je sais pas quoi faire. Est-ce que si je suis obligé de donner les points, obligé de donner les points au chat parce que Logan a dit.
Melo.
C'est pas Melo, Logan a dit Westbrook et c'est Westbrook qui en avait pris.
Quelle indignité.
Donc, 44 vous m'avez. 44.
C'est pas un match à 50 points, ça ?
C'est un match, faut que je passe en plein écran.
Est-ce que c'est pas la première saison triple-double ?
Première
c'est
saison triple-double.
2016.
Ouais, c'est ça. Ouais, première c'est ça, saison.
Ouais, ouais, c'est la première,
première saison et ça doit être un
triple-double. Westbrook.
Ça doit être un des triple-doubles à 50 points ou une connerie du genre.
Si on résume, vous m'avez précisons que, et c'est là où c'est fantastique, sur le top 15 des performances, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5 qui ne sont pas faits en prolongation, et le numéro 1 de Kobe n'est pas en prolongation. Donc c'est quand même...
t'as dit qu'il y en avait un par décennie.
Alors, il y en a un qui l'a fait en... Donc,
David Robinson,
Westbrook,
quand
c'était en 2016.
Quand il marque,
ah oui,
combien il avait mis, je ne me rappelle même plus.
Il avait essayé de mettre 70 points, non, pour être meilleur scoreur.
Non, je crois qu'il avait plus.
Il avait 74.
David Robinson, 21e, 41 tiers, mais ce n'est pas lui. Il y en a un. Alors, je vais vous aider. Je vais vous aider avec les dates maintenant. Le chat aussi. Le chat, il n'y a plus de bonnes réponses. Il y en a un qui a fait ça en 2001 et il y en a un qui a fait ça en 88.
En 2001.
Ok, donc il n'y a plus de 90.
Commençons par le 2001.
Charles Barkley, 88.
Non, je suis désolé les gars, parce qu'en plus je déteste les quiz et je vous en fais un. Je suis vraiment désolé.
Non, mais il est super marrant celui-là. 2001.
Alors, je suis très honnête. Hein, c'est les deux plus durs à trouver du classement, je pense.
En gros, c'est pas des superstars qui ont marqué. Quoi.
En vrai, quand tu parles d'une époque... Tu parles forcément de ces deux joueurs-là dans leur époque, mais ce n'est pas les trois premiers noms qui te viennent à l'esprit de l'époque en question. Eh bien, je suis obligé de donner la réponse du chat quand...
Isaiah Thomas ouais.
Et HNR qui l'a, Dominic Wilkins qui en a pris 42.
Ah oui, salut HNR, fan des Sixers HNR.
Et il me manque le quatrième. Ah, le quatrième, c'est un peu de la triche parce qu'on en a parlé en off. Donc, en vrai, il faudrait limite que le chat...
Ah, mais c'est celui-là auquel je pensais. Et du coup, je m'en doutais que... Ouais.
Donc, on va laisser une minute au chat pour trouver un joueur qui a pris 47 tirs en 2001.
Il est très difficile. Hein.
Qui est très difficile et qui joue... Il a le record, si on ne compte pas les tirs à 3 points, c'est lui qui a le record de tirs à 2 points pris sur les 40 dernières années dans un match. C'est
déjà,
donc
ça
un
donne
intérieur.
Une indication. Ouais, voilà.
C'est un intérieur.
Et tu as dit 2001, mais ça aurait été plus simple à trouver si tu avais dit 2002.
Ouais, par exemple.
Comme ça.
Ou arbitrage, par exemple. on va la donner pour éviter de faire passer trop de temps à ceux qui nous écoutent en podcast. Chris Weber a pris 47 tirs, le 5 janvier 2001, 47 tirs, hein, donc voilà, et ce qui est fou, c'est donc que Joël est que 19e dans ce classement, où pour la petite, c'était la blague de base, je vais vous faire un résumé les gars, du top 20 pour qu'on rigole, Kobe, Jordan, Kobe, Weber, Kobe, 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 Westbrook, Jordan, 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 Westbrook, Iverson, Wilkins, Kobe, 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 Embiid, Harden. Donc bon, il y a beaucoup de Kobe quand même présent dans...
Ah, Kobe, dans bah Kobe quand même, grand croqueur devant l'éternel. Hein. Il est parti sur ça. Hein.
J'avoue que quand même, le fait d'en prendre 50 dans le seul match, c'est-à-dire que dans le top 10, il n'y a que lui et Jordan qui ont un match qui n'est pas en prolongation.
Alors... Quand notre ami Wilt, du coup battu récemment par Embiid aux Sixers, a mis ses 100 points, c'était 63 tirs.
Ah, c'est. Mais
à 13 tirs de Kobe au dernier match.
On va finir là-dessus, mais il y a une charge physique de malade de prendre autant de tirs, ouais. En fait. C'est de la folie.
Ah enfin, oui.
C'est prendre 50 tirs, ça n'a aucun sens, hein, je veux dire. Bref, j'espère que ça vous a plu. C'était assez marrant comme petit quiz de ouais, fin de l'épisode.
Il était très marrant.
Et on espère... Alors, ne vous infligez pas, ne vous auto-flagez pas, flagelez pas. Le chat, c'est toujours difficile dans le moment de trouver les réponses. On a toujours des auditeurs qui viennent nous dire... C'est abusé, Kobe. On est d'accord, Chris. C'est un petit peu.
Oui.
On est d'accord. Il y a toujours des auditeurs qui viennent nous dire oh, moi, j'avais trouvé. Mais effectivement, dans le feu du moment, c'est toujours un petit peu difficile. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour ce live un petit peu improvisé. On a beaucoup parlé des Bucks. On a un peu parlé du Heat et des Hornets. On a un petit peu parlé de Jojo Embiid, même si on a perdu Amine en cours de route. Mais qui est revenu.
Censuré.
Mais qui est revenu.
Pour une fois que je dis du bien.
En tout cas, on a passé un excellent moment. Pour ceux qui nous retrouvent seulement maintenant, le replay sera disponible sur les plateformes de podcast et bien évidemment sur YouTube. Eh bien, nous, on va prendre quelques jours de pause. Comme d'habitude, il y avait une question que j'ai vue passer tout à l'heure. C'est Alex qui nous demandait « Allez-vous traiter des Orlando, du Magic d'Orlando dans les prochaines semaines ?» C'est une équipe dont on peut traiter. Honnêtement, on arrive à la partie de la saison où on a plus de sujets que d'épisodes. Donc, il faut parfois faire des choix et on devrait parler d'Orlando, on doit parler bien évidemment des Raptors, on pourrait reparler un peu des Pacers, enfin, il y a beaucoup d'équipes dont les Knicks mériteraient qu'on en parle aussi, donc il y a beaucoup d'équipes dont on peut parler, donc on va essayer d'un peu contenter tout le monde. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Emma Diane, merci Amine, puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Merci le chat, bonne soirée, salut.
Tchuss.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.